à la fine pointe de l'information.
L'actualité, les dossiers chauds, à la minute près. Au 93, c'est Bouchard en parle, avec Sylvain Bouchard.
Qu'est-ce qui se passe au hockey, Vince?
Oh non, mais ça fait des matchs, beaucoup, et des séries en fin de semaine.
Non. Moi, je suis le basket aussi.
Oui.
Il y a eu quelques petites surprises, les premiers matchs, tout ça. Toronto s'est fait surprendre par Orlando. Mais là, on revient à la normale pas mal. Les équipes qui dominaient en série, tu sais, continuent à dominer un peu. Là, ça se peut que dans l'Ouest,
Ça se peut que...
Les trois meilleurs clubs, selon le classement général...
Là, il y a trois des quatre meilleurs qui sont sortis.
T'as déjà trois, là. Ouais, mais c'est-tu vraiment un, deux ou trois?
Si on prend le classement de la conférence, si on oublie les divisions,
Calgary était la meilleure équipe.
Nashville a été sorti, il était premier de la division centrale. Winnipeg a été sorti, il était deuxième de la division centrale. Calgary était premier de la conférence, donc de la division Pacifique et de la conférence de l'Ouest, ils ont été sortis. Il reste San Jose, qui était deuxième dans la division Pacifique, qui font face à l'élimination ce soir.
Mais prends l'association de l'Ouest overall. Là. Ça va être plus simple qu'y aller par division, c'est mêlant. Tu as vraiment trois des quatre overall qui sont sortis.
Oui, puis il pourrait en avoir un quatrième. Là. Si Las Vegas bat San Jose était troisième au total dans l'Ouest.
Bon, c'est ça. Là, que ouais. Et Tampa Bay est sorti. Et ça se peut que Boston, là, c'est plus serré, les écarts. Mais ça se peut que Boston soit sorti aussi, il va avoir un septième match. Ouais. Et ça se peut que Caroline sorte Washington.
Et ça se peut.
Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, ils ont changé la formule des séries aussi. Là. C'est plus 1 contre 8 puis 2 contre 7 où il y avait un peu moins d'écart, mais il y avait plus de séries qui finissaient en 4 aussi.
Il y a ça.
Un peu comme ils ont fait dans la Ligue junior majeure du Québec. Là. Ils ont mis ça par division plutôt que par conférence.
Est-ce que, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Là. Est-ce que le fait que les arbitres, tu sais, je parlais du basket tantôt, là. Mon Super Bowl, là, à une minute, il reste une minute au cadran, puis il y a une infraction, là. Mm. OK? Ils vont, le mouchoir est à terre. Mm. Et les gens, évidemment, peuvent challenger, dire je suis pas d'accord. Mais l'histoire de, hey, on est au Super Bowl, il n'y avait pas d'affaire à call la shot. Non. Personne ne va penser à ça. S'il y a une pénalité, alors que hockey, il y a un livre des règlements en série, dépendamment, là, comme en prolongation.
Il y a 5-6 livres.
Hey, je l'ai tellement entendu en fin de semaine, j'ai regardé, c'est rare que je peux regarder le hockey tard avec mon horaire, mais là, je me suis tapé San Jose, puis Vegas, en fin de semaine, jusqu'à la fin. Ce que je peux faire rarement, là, pour une fois, go. Et même les médias le disent, c'est évidemment, les arbitres ne veulent pas être un facteur déterminant dans le match.
Non, mais ils le sont.
Exact, en collant pas la pénalité, tu viens d'influencer le match, tu favorises les équipes
qui trichent, qui auraient dû avoir une punition,
moins de talent un peu. Alors,
parce que si t'as commis une infraction qui aurait mérité une pénalité, donc t'as ralenti ou empêché l'adversaire de faire un jeu. Alors tu favorises les tricheurs.
Et là, j'entendais encore d'autres commentaires entendus. Ouais, les arbitres veulent pas influencer le match. Et là, autre commentaire. À un moment donné, arrive une pénalité qui est assez claire pour tout le monde. Et là, j'entends, mais il n'y avait pas de chance de marquer. Fait que.
Quoi?
Il est où, ça, dans le règlement, que si tu frappes quelqu'un, mettons, il n'y a pas à rondelle, mais il n'y a pas de chance de marquer.
OK, donc au football, il faudrait donner des punitions juste en dedans de la ligne de 20.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de chance de toucher. Donc,
ouais, c'est ça.
On n'entend pas ça au foot, là. Mais tout ça pour vous dire que c'est dans notre culture. Pas juste au niveau des arbitres. Même les médias embarquent là-dedans, les fans. La culture du hockey, c'est qu'en série, c'est pas pareil. Mm. Est-ce que ça peut expliquer que des équipes très talentueuses comme Tampa Bay ou tout ça...
Ça peut. Que je te le contrôle la semaine passée, c'est parce que en agissant comme ça, tu permets à des joueurs qui ont moins de talent d'avoir des plus gros rôles dans une équipe.
Oui.
Parce que là, ils vont accrocher plus. Oui. Petit coup dans l'air ici, petite patte sortie là. Ils vont avoir un rôle plus important que ce que leur talent leur mériterait, dans le fond.
Et là où ça change également, je trouve ça injuste. Tampa Bay, c'est vrai qu'en saison, regardez le nombre de buts qui ont... on a attiré mon attention là-dessus en fin de semaine. Le nombre de buts qui ont marqué en avantage numérique. Mm. Sérieux, à 5 contre 5, c'est pas l'équipe dominante dont on a parlé de la saison. Là. Ils sont beaucoup sur le power play. Ce qui est pas mauvais, là. Le power play, ça existe. C'est dans le livre. Tu joues à 5 contre 4. Or, en série, vu que les arbitres serrent leur sifflet,
ben, il y a moins d'avantages numériques.
Il y a moins d'avantages numériques parce qu'ils permettent pas tout, mais à peu près tout. Donc, une équipe comme Tampa Bay qui a un gros power play, ça, c'est du talent, là. Ça, c'est du, ben là, ils peuvent moins s'exprimer un peu.
Puis les joueurs dont je te parlais tantôt qui ont moins de talent, mais qui prennent des gros rôles parce qu'ils accrochent sans se faire pénaliser, ben, généralement, c'est pas les joueurs de quatrième trio qui vont accrocher. C'est les meilleurs, l'autre bord. Donc, les meilleurs ont pas la place normale pour jouer, puis pour évoluer, puis pour faire des...
C'est rare dans le temps qu'on voyait Mario Lemieux accrocher Brian Scrooglund. C'est ça que tu veux dire. C'était plus l'inverse.
Généralement, ouais.
C'est rare que Lemieux est en arrière de Scrooglund, puis il l'accroche. Ouais. On n'a pas vu ça souvent.
C'est ça. Puis il y a des mises en échec qui vont faire... qui vont se donner, tu vas prendre un élan un petit peu plus long, puis tu sais que tu seras pas pénalisé, puis l'autre, ben, il va se blesser, ou il va être sonné, il va être parti pendant une partie du match, ou peut-être qu'il reviendra pas, comme TJ Oshie, qui est dans mon pool.
Mais tout le monde dit qu'il n'a plus de mise en échec au hockey, pourtant. Ça, on entend ça souvent.
Alors, il y en a encore. Il aurait fallu que tu vas jouer au Ovechkin hier, là.
C'est-tu en série qu'il n'a plus que normalement? Ou
des mises en échec?
Ouais.
Oui.
Oh, OK, c'est pour ça.
Ça se pitche partout, là.
Oh oui, puis je sais que c'est rapide, puis je sais, mais écoute bien, là, vous avez acheté un arbitre, là, anyway, là, sont rendus plus qu'avant. Puis le football aussi, là, quand t'arrives des trucs de pass interference, c'est pas évident, puis ils réussissent à juger pareil, puis à un moment donné, ils prennent des décisions qui sont pas toujours les bonnes, mais au moins, sont conséquents avec le reste de la saison. Parce que là, sinon, ça compte pas, là, le reste des games en saison, là, c'est quoi, là? Ah, mais ça, c'est pas le même hockey.
Ouais, c'est un réchauffement.
Là, c'est le hockey des séries. Il n'y a pas de basket des séries ou de football des séries. C'est le même
de
football.
De baseball des séries.
Ouais, on dit ça. Hey, ça, c'est du baseball des séries. Hein? Un lanceur lance la balle dans la tête du frappeur.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est le baseball des séries.
Full accident, full contact. Là,
ça, 6 heures et... On a des belles games de hockey, pareil.
Quand même.
Ceci étant dit, il y a de l'intensité, tout ça. Puis c'est le fun, même si le Canadien n'est pas là. 6:45.
Doc Mayou et José.
Lundi au vendredi, dès 9h30.
OFM 93.
Une Mazda 3 à seulement 66 $ par semaine chez Laurier Mazda.
Ça cartonne!
C'est moyen, réveille-toi. Tu sembles gazé.
Une Mazda 3 à seulement 66 $.
Tu as hésité, j'envisage de changer de porte-parole.
Une Mazda 3 à seulement 66 $ chez Laurier Mazda.
Offre d'emploi, cherche porte-parole dynamique et capable de dire une phrase comme du monde.
Une Mazda 3 à seulement 66 $ chez Laurier.
Voici ton 4%. Bonne chance, on va se débrouiller. Laurier Mazda.
Ça cartonne!
Solaris Québec, portes et fenêtres. Sylvain, le printemps est à nos portes et nos fenêtres chez Solaris.
Oh, Joanne, beau jeu de mots. Puis t'as tellement raison, avec le temps qui se réchauffe, on a le goût de changer d'air.
Exactement. Et pour les portes et fenêtres, on consulte les experts de chez Solaris.
Joanne, tu savais que Solaris compte plus de 45 ans d'expérience?
Ben oui. En plus, chez Solaris, on achète du manufacturier. Il y a donc un meilleur contrôle de la qualité et c'est moins cher.
Solaris Québec, portes et fenêtres.
Au 710 rue Beau.
À Québec, un Ford fait pencher déjà un Ford.
C'est l'événement Laria Sport en folie. Cette semaine, offrez-vous un F-150 Sport Laria 2019 au meilleur prix de l'année. Seulement 235 $ aux deux semaines, location de 24 mois. À ce prix-là, vous bénéficierez d'un vrai rabais de 8 200 $. Le dur de dur à ce prix-là, du jamais vu. Détails de cette offre chez Desjardins Ford, rue Marais, Desjardins Ford Sainte-Foy, rue Watt, Desjardins Ford Lange-Gardien, boulevard Sainte-Anne.
Mais voyons donc, c'est tout rouillé. Le céramique est tout cassé. Sa salle de bain a juste...
Pas de bon sens, comme est belle ma nouvelle salle de bain. Sérieux, merci pas.
Avec des vrais prix de fou, Canac aide pour vrai.
Le Paris Grill et le Café du Monde vous proposent leur table d'hôte à partir de $29.95. Optez pour l'ambiance urbaine et animée du Paris Grill et revisitez les grands classiques grâce à la cuisine moderne et pleine de charme de notre chef Olivier Blais. Ou plongez dans l'ambiance décontractée du Café du Monde où les savoureux plats de notre chef François Drouin s'accompagnent à merveille à la vue imprenable sur le fleuve. À partir de seulement $29.95, laissez-vous charmer par les tables d'hôtes de vos deux brasseries françaises de Québec. Le Paris Grill et le Café du Monde, des ambiances restent au plaisir.
Aurons-nous un troisième lien? Allons-nous repeinturer le pont de Québec? Va-t-on bientôt se promener en tramway? Est-ce qu'un référendum pour choisir entre un métro et une navette spatiale va avoir lieu sous peu?
Clairement, plus on en parle, moins ça avance. C'est pourquoi Option Subaru t'offre de régler ça avec une Outback 2019 à seulement $31 210. Citoyens de Québec, faites donc un X à la bonne place. Votre entrée de garage. Slogan.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru. Ce vendredi et samedi, au Centre des congrès de Québec, venez découvrir 1520 spiritueux, bières et produits du terroir au Salon international des vins et spiritueux de Québec, présenté par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Visitez salondesvinsdequebec.com.
Boucharon parle.
Actualité.
Actualité.
Analyse.
Entrevue.
Opinion.
Opinion. Et vos commentaires. Tout ce que vous devez savoir.
Boucharon parle. OFM 93.
6h48, on va revenir sur les événements tragiques qui se sont déroulés en fin de semaine. Ça se peut, c'était le long congé de Pâques, que vous étiez pas dans l'actualité là à temps plein en fin de semaine. Alors, on a tous vu ça, on a regardé ça un peu. Moi, je me suis renseigné, mais j'avoue, là, on a pris congé un peu. Alors, ce matin, on va faire le bilan, on va revenir là-dessus pour vous. Il y a du nouveau également. Alors, ça a été des attaques sanglantes au Sri Lanka. Jean-Simon l'a mentionné tantôt, le bilan a encore augmenté. On a passé le cap des 300 morts, c'est bien ça, ce matin?
Oui, 310 morts.
Dans une série d'attaques, dans une église, dans des hôtels, où on a vraiment visé la communauté chrétienne du Sri Lanka. Alors, pour faire le point là-dessus, on rejoint notre expert en relations internationales, Éric Arsenault. Éric, bon matin.
Bonjour Sylvain.
Alors, compte tenu que, bon, c'est arrivé pendant le long congé de Pâques, d'ailleurs, ça a peut-être une symbolique là-bas, mais peut-être que les gens n'étaient pas aussi attentifs à l'actualité. Résume-nous un peu d'abord les événements. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, au total, ce sont 8 explosions qui sont produites, donc, dimanche au Sri Lanka, principalement dans la capitale Colombo. Il y a 3 églises qui ont été visées, l'une à Colombo, 2 autres à l'extérieur, 3 hôtels de luxe également situés en bordure de mer, et il y a 2 autres attentats qui sont survenus, toujours dans le même genre, des attentats à la bombe, 2 autres attentats qui sont survenus un petit peu plus tard. Bref, au total, tu y faisais référence tout à l'heure, plus de 300 morts, on est à 310 ce matin, 500 blessés, certains sont dans un état critique, et entre 30 et 40 de ces victimes, de ces 310 victimes, seraient des étrangers. On apprend ce matin, d'ailleurs, que la famille d'un milliardaire danois qui a fait fortune dans le vêtement a été pratiquement décimé au grand complet dans cette série d'attentats. Donc, c'est un attentat qui est évidemment un retentissement là-bas au Sri Lanka, mais qui est un retentissement à l'échelle internationale du fait que des étrangers aient été ciblés puis aient été visés.
Est-ce que, évidemment, ça vient de se passer, c'est tout récent, mais dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'on a rapidement pointé du doigt des suspects. On pense à des groupes islamistes.
Voilà, exactement. Pourtant, il y a encore beaucoup de confusion autour de ça. L'organisation qui est pointée du doigt, c'est une petite organisation islamiste, et je te fais grâce du nom complet, on va la nommer NTJ, puis c'est comme ça qu'on la désigne. C'est une organisation qui était jusqu'à récemment encore très peu connue. Tout ce qu'on savait de cette organisation-là, c'est que d'abord, un de ses leaders, plusieurs fois dans le passé, avait été arrêté pour incitation à la haine au Sri Lanka, à la haine religieuse. Faut savoir également qu'au mois de décembre dernier, cette organisation-là s'était retrouvée sous les feux des projecteurs. Pourquoi? Parce que cette organisation avait revendiqué la destruction, on avait vandalisé des statues bouddhiques. Mais pour le reste, c'est tout ce qu'on sait de cette organisation-là. Une organisation relativement récente dans le paysage et qui visiblement disposait pas des moyens nécessaires à perpétrer des attentats de ce genre-là. Ce qui laisse supposer et penser, Sylvain, qu'il y a peut-être une connexion internationale derrière ça. Il y a peut-être eu un soutien ou un support international. Parce que pensons-y, d'abord, quand on regarde l'objectif, ouais, c'est de viser des lieux de culte, viser également pendant les célébrations de Pâques, un moment charnière, viser également des hôtels de luxe. On sait que le tourisme, c'est l'un des moteurs de l'économie là-bas. C'est pas un hasard, visiblement. Quand on regarde les moyens qui ont été utilisés, c'est pas un attentat qui a été fait comme on voit des fois récemment avec soit des camions béliers ou un fusil mitrailleur. Là, ce sont des attentats à la bombe. Donc, ça exige des connaissances beaucoup plus sophistiquées, connaissances des explosifs, des mécanismes de détonation, la fabrication, l'entreposage, l'achat de ces substances-là. Et au-delà de ça, Sylvain, ce qu'il faut remarquer également, c'est l'extraordinaire minutie de la coordination entre ces attentats.
Ben oui.
6 de ces explosions-là se sont produites pratiquement l'espace de quelques minutes, 2 autres un petit peu plus tard. Ça exige nécessairement des moyens de transport, de planification, de coordination qui sont peut-être pas à la portée de la main d'une petite organisation. Donc, c'est pour ça que là-bas, on pense, au niveau de l'enquête, que peut-être l'État islamique ou peut-être Al-Qaïda, on sait que ces organisations-là ont des filiales, des succursales, des ramifications un peu partout dans le monde. Et on sait également que l'État islamique, par exemple, sa propagande s'était dirigée en particulier au cours des dernières années sur le sous-continent indien, où on laisse entendre que les minorités musulmanes là-bas sont persécutées pour essayer de recruter des gens. Alors, actuellement, l'enquête progresse dans cette direction. élection-là.
Parle-moi un peu du contexte au Sri Lanka. Évidemment, il y a le contexte international. On sait ce qui se passe avec l'islam radical. Tu as mentionné l'État islamique, Al-Qaïda. Mais là, ils ont choisi comme cible le Sri Lanka. Là-bas, il y a beaucoup de... On nous dit qu'il y a beaucoup de bouddhistes. Il y a une minorité chrétienne, de musulmane. Est-ce que ça branche? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de rivalité? On entend parler de temps en temps de cette région du monde-là. Puis on sait qu'il y a, un certain niveau de violence. Parle-moi donc du contexte sri-lankais.
C'est intéressant ce que tu fais mention, Sylvain, parce que ce pays-là, malheureusement, le Sri Lanka, est tristement célèbre parce que pendant 25 ans, il y a eu une guerre civile absolument meurtrière. De 1983 à 2009, ce pays-là a été ravagé par une guerre civile qui opposait le mouvement séparatiste tamoul. Alors, c'est la minorité hindoue présente sur l'Inde. C'est à peu près 10% de la population concentrée surtout dans le nord et le nord-est du pays. Et ce mouvement séparatiste-là, par le biais d'une organisation extrémiste, d'une guérilla, littéralement, a combattu pendant des années et des années le gouvernement central. Ça a fait 100 000 morts, 1,5 million de personnes ont été déplacées. Le mouvement séparatiste a été écrasé dans le sang en 2009 et depuis ce temps-là, bon, le pays est de retour au calme, mais je te dirais que c'est un calme qui est tout relatif parce qu'effectivement, non seulement les tensions interethniques, mais également les tensions religieuses persistaient dans ce pays-là. Parce que les trois quarts des habitants sont bouddhistes, mais il y a une minorité hindoue importante, les tamouls. Il y a également à peu près 10% de musulmans et une petite minorité chrétienne, on parle d'à peu près 6-7%. Et au cours des dernières années, puis en particulier des derniers mois, on avait vu des tensions religieuses apparaître. Par exemple, il y a eu des affrontements entre bouddhistes et musulmans. Il y a même eu des émeutes visant des musulmans qui ont été mis sur le compte d'œuvre de groupes bouddhistes radicaux. Mais la minorité catholique et chrétienne également au Sri Lanka a été visée par plusieurs incidents, des intimidations, des agressions. On en a recensé une centaine en 2017. Donc, il y avait effectivement là, un fond de tension, non seulement ethnique, mais religieuse, qui est très présente dans l'île au Sri Lanka.
Est-ce que, en terminant, évidemment, on a ciblé des chrétiens dans des églises? Tu l'as mentionné. Alors, la question, c'est peut-être trop tôt dans l'enquête, mais est-ce que ça peut être une forme de réplique à ce qui s'est passé à Christchurch en Nouvelle-Zélande? Est-ce qu'on peut faire un lien avec ça?
Moi, je serais pas prêt à faire un lien avec tout ça. La situation est tout à fait particulière là-bas. Mais une chose est sûre, c'est que ceux et celles qui sont derrière ça, parce que l'attaque n'a pas encore été revendiquée, même si on pointe cette petite organisation de radicaux islamistes qu'on appelle le NTG, mais une chose est sûre, c'est que cette attaque-là a été visée pour faire mal à l'économie de ce pays-là. Le Sri Lanka vit sur l'industrie touristique. Et rappelons-nous, Sylvain, quel est le but des terroristes? C'est de faire peur. C'est d'essayer de déstabiliser. C'est d'instiller la crainte, l'insécurité. Et c'est exactement ce qu'on fait là-bas. Est-ce que c'est une réplique aux agressions qui ont été commises contre la minorité musulmane? Sauf que ceux qui sont derrière ces agressions contre la minorité musulmane, c'est la majorité bouddhiste, c'est pas les chrétiens. Là, c'est les chrétiens qui ont été visés. Est-ce qu'on veut tout simplement déstabiliser le pays? Est-ce qu'on s'en prend aux chrétiens? Pourquoi? Parce que, bon, on fait le lien entre les chrétiens et les occidentaux. On s'est attaqué à des cibles, des hôtels de luxe qui sont beaucoup fréquentés par les occidentaux. Le Sri Lanka est devenu une destination touristique incontournable pour ses plages, pour sa nature verdoyante. Alors, il est encore trop tôt pour essayer d'établir un lien. Est-ce que c'est une réplique à quelque chose? Mais carrément, le but, c'est de faire peur, c'est de déstabiliser, puis c'est d'essayer peut-être dans cette région-là de créer un nouveau foyer de tension ethnique et religieuse.
Merci beaucoup, Éric, de nous avoir parlé ce matin. Merci.
Salut Sylvain, passe une bonne journée.
Bonne journée. Éric Arsenault faisait le point sur les événements sanglants du côté du Sri Lanka. J'aime beaucoup ce qu'il a dit à la fin. Hein. C'est leur but. Hein. Alors, pourquoi ils ont attaqué des chrétiens? Est-ce que c'est une réplique à la Nouvelle-Zélande? Éric, il dit peut-être pas. C'est peut-être juste le but fondamental des terroristes, c'est faire peur, créer des tensions. Alors, c'est important de ne pas embarquer là-dedans. Comment on peut les combattre, les terroristes? Ben, il faut pas embarquer dans la peur, faut pas embarquer dans les tensions. Faut rester le plus possible rationnel. C'est pas facile. Hein? Tu sais, je dis ça, là, mais comment tu veux rationaliser ça? C'est des massacres comme ça. Ben, évidemment qu'il y a de l'émotion. Mais il faut faire attention de pas tomber dans le piège de juste être émotif. Puis de eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on parte en guerre. Ils veulent que tout le monde, que la chicane parte partout, c'est bon pour eux. Alors, il faut donner les faits. Il faut essayer de s'en tenir aux faits, essayer d'être prudent. Il y a quelques petites affaires que je n'ai pas aimées rapidement en fin de semaine. Évidemment qu'il faut en parler, déplorer. Il faut déplorer ça, il faut dénoncer. Oui, puis on le fait. Mais déjà là, on fait des comparaisons. Je trouve ça un peu... Ouais, ils n'en parlent pas assez par rapport à Nouvelle-Zélande. Quand c'est des musulmans qui se sont fait tuer, ils en ont parlé beaucoup. Là, c'est des chrétiens, ils n'en parlent pas. Ça, j'ai vu passer ça beaucoup, beaucoup sur Facebook. Je vous comptez ça comment, là? Ah, Trudeau a pas réagi, c'est faux. Mais non, c'est faux. Il a réagi rapidement. Mais j'ai vu passer ça en fin de semaine à Tonne. Ah, Trudeau a pas dit un mot parce que c'est des chrétiens. C'est faux.
Non, mais les gens ne s'informent pas.
Les musulmans de Québec ne dénoncent pas. Ils dénoncent pas, là. C'est faux. Je les ai toutes reçues hier, les communiqués. Mosquée de la capitale, centre culturel islamique. Ils ont toutes signé un communiqué de presse. C'est barbare, c'est inhumain, sanglant. Ils ont dénoncé ça avec virulence. Je les ai toutes. Mais j'ai quand même vu passer. Non, ils dénoncent pas, là. Et alors, tombons pas dans les mensonges. Restons, là. Est-ce qu'on va en parler autant? Écoutez, je vous l'ai déjà dit, là. Quand ça se passe dans un pays occidental, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont considérés comme des pays occidentaux, en partant, les médias en parlent plus.
Ouais.
En passant, vous pouvez pas être d'accord avec ça, là. Je vous dis pas que c'est bien ou mal.
Mais c'est un fait.
Je vous dis que c'est un fait. Là, ça se passe au Sri Lanka. Si vous dites, bon, non, mais regarde, là, c'est parce que là, c'est des musulmans qui sont les responsables qui en parleront pas. Éric vient de vous dire qu'il y a eu 100 000 morts. Pas 300, 100 000 dans la guerre civile au Sri Lanka impliquant les Tamouls. Ils n'ont-tu parlé? Quasiment pas. Êtes-vous au courant? Peut-être pas. Je vous blâme pas. Pourquoi? Parce que au Sri Lanka.
Parce qu'on n'a pas de lien.
S'il y avait eu 100 000 morts en Australie dans une guerre civile, là, ou en Nouvelle-Zélande, ou en France, c'est-à-dire, là, quand. Alors, ça se peut, là. Autrement dit, ça se peut qu'on en parle un peu moins que la Nouvelle-Zélande. Pas parce que les victimes sont des chrétiens, puis on veut rien savoir des chrétiens. Parce qu'étant au Sri Lanka, malheureusement, j'insiste, malheureusement, quand c'est pas dans un pays occidental, et savez-vous pourquoi on en parle moins? D'après moi, ceux qui font les nouvelles, ils savent que les codes d'écoute puis les clics,
Mais regardez les médias
moins
sociaux.
Fort. Alors, je veux juste combattre certains mensonges. Les faits ont été donnés là. C'est l'islam radical, ça existe, faut pas le nier. On pense qu'on a vaincu l'État islamique en Irak. Si c'est eux qui sont derrière ça avec Al-Qaïda, il faut lutter, il faut pas se fermer les yeux. Le danger est là. Faut juste pas aller dans les mensonges. Non. Trudeau a dénoncé les musulmans de Québec. Tous les imams, j'en ai vu 4 signer une déclaration commune, ont dénoncé. On en parle moins, il y a des raisons.
Oui, c'est vrai.
Je veux juste donner quelques faits.
Ah oui, puis tu sais, faut pas oublier non plus qu'il y a une triste réalité qui existe, c'est que tu as certains coins dans le monde où des actes de terreur puis des actes de violence, il y en a 100 fois plus qu'ici. Puis si tu as certains coins dans le monde où il y en a tellement qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins. Pas parce que c'est rendu banal, c'est parce que le volume est c'est moins, mon Dieu, comment je dirais ça,
c'est moins surprenant.
C'est moins surprenant. Effectivement, mais, oui.
Bon, je pense que tu es d'accord avec moi, je dis pas que c'est bien.
Non,
ça,
c'est pas,
on
c'est pas
devrait
bien
peut-être
du tout, là.
L'être humain devrait autant se scandaliser s'il y a 100 morts dans un pays en Afrique que s'il y a 100 morts aux États-Unis, mais c'est pas comme ça que l'être humain fonctionne. Mais c'est le même. Regarde, moi, honnêtement, Éric, il m'a un peu, quand il a parlé de 100 000, je savais pas, moi, qu'il y avait eu 100 000
c'est gros,
victimes.
Là.
Autant, je sais que ça a brassé les Tamouls. Ça, je suis au courant un peu, là. Pas parce que je suis meilleur que vous, parce que c'est ma job. Mais, tu sais, mais on n'a pas parlé à l'époque, là. Alors, c'est comme ça. Là, il reste que l'enquête se poursuit. On verra qu'est-ce que ça va donner. Restons prudents. 7h01.
Sylvain Bouchard, FM 93.
93. Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle.
7h01, dans le trafic, Vez, comment ça se passe?
C'est déjà très au ralenti dans l'entonnoir qui mène au pont La Porte, là, jusqu'à ce qu'on tenait traverser le pont sur la rive nord. Et il y a des files d'attente qui commencent déjà à s'allonger et sur la 20 et sur la 73. Mais pour l'instant, c'est pas dramatique. Henri IV, direction sud, ça ralentit à peu près à mi-chemin entre Industriel et Sainte-Geneviève jusqu'à Charest. Évidemment, en raison du chantier, je vous rappelle que sur Capitale, direction ouest, au bout, avant d'aller sur Henri IV en direction sud et même en direction nord, là, il y a une nouvelle configuration en raison du chantier dans ce secteur-là. Alors, soyez très vigilants. Capitale, direction ouest, entre Laurentienne et Robert Bourassa, c'est au ralenti également.
La circulation, une présentation de Volvo de Québec qui vous invite à découvrir le Volvo XC60, désigné véhicule le plus sécuritaire jamais testé en Europe. Détails chez Volvo de Québec. volvodequebec.com.
Si vous êtes touché par les inondations en Beauce, on est avec vous ce matin. D'ailleurs, notre collègue Jonathan Bernard est sur le terrain à Sainte-Marie pour nous donner des détails sur l'évolution de la situation. C'est la dévastation présentement alors que le centre-ville est en bonne partie inondé. Une situation qui n'avait pas été vue depuis plus de 100 ans. On dénombre près de 1000 résidences inondées. La mauvaise nouvelle, c'est que des précipitations sont attendues pour le reste de la semaine en Beauce. Et le nombre de ménages canadiens payant au moins un service de vidéo en continu éclipsera celui des abonnés du câble pour la première fois l'an prochain, selon un rapport du Convergence Research Group. Bien que de nombreux ménages souscrivent aux deux options, le rapport estime qu'environ 32 % des ménages canadiens n'auront pas d'abonnement au câble d'ici la fin de l'année prochaine, soit une augmentation d'environ 2 points de pourcentage par rapport à 2018.
Les Hurricanes de Caroline ont provoqué un septième match dans leur série de première ronde contre les Capitals de Washington, un gain de 5-2 hier, septième match donc demain. Dallas a éliminé Nashville en 6 matchs avec une victoire de 2-1 en prolongation hier soir. Ce soir, il y a deux matchs numéro 7, Toronto à Boston et Las Vegas à San Jose.
Et c'est du soleil aujourd'hui à Québec. On a un ciel complètement dégagé. C'est comme ça jusqu'à ce soir avec un maximum de 10 degrés. Pour demain mercredi, on a de la pluie avec un maximum de 4 degrés seulement. Et ça remonte à 10 pour jeudi avec alternance soleil-nuage. À Québec, il fait 3.
La météo présentée par Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. Vous rêvez peut-être de passer à l'électrique? Allez-y par étapes. On a 40 Niro L 2019 hybrides en inventaire à 26 630 $. Garantie 5 ans, 100 000 kilos. Moitié électrique, moitié essence. Le meilleur des deux mondes.
FM 93. Ça me parle.
On ne dira jamais assez comment c'est simple de faire affaire avec Radiologie Mayou. Si vous devez passer une radiographie, ben vous sortez de chez le médecin avec votre prescription. Pas besoin de prendre de rendez-vous. Faites seulement vous présenter chez Radiologie Mayou avec votre prescription. Ça va prendre 10-15 minutes et c'est fait. Pas besoin de prendre de rendez-vous. Je vous le répète, et c'est sans frais. Les résultats sont transmis très rapidement. Ça veut dire que si vous avez le temps ce midi, ben allez-y. En 10-15 minutes, ça va être fait. Allez-y en fin de journée, sinon après le travail ou même les week-ends parce qu'on est ouvert de 9h à 14h les samedi et dimanche. Et maintenant qu'on est déménagé au complexe Sina, c'est la plus grande clinique d'imagerie au Québec et vous n'attendez pas plus longtemps. Et aussi, prenez note que Radiologie Mayou a de nouvelles disponibilités de rendez-vous rapides pour les infiltrations sous scopie. Contactez-nous maintenant et ça aussi, c'est sans frais. RadiologieMayou.com.
Vous pensez à changer de voiture? Pourquoi pas une voiture d'occasion de chez Beauport Hyundai? Chez nous, les véhicules sont certifiés. Ils passent une inspection en 125 points. On regarde le moteur, la transmission, les freins, la suspension, la conduite, en plus des systèmes électriques de chauffage, de climatisation, puis évidemment la carrosserie et l'intérieur. Je vous le dis, on n'y est pas chez Beauport Hyundai. Il y a une politique d'échange de 5 jours garantie, 0 $ de frais de préparation et d'administration. Pour une bonne voiture d'occasion, il n'y a qu'un seul endroit. Toujours et seulement chez Beauport Hyundai.
Vous allez succomber pour la lasagne. 5 fois plutôt qu'une chez Normandin. Profitez du menu spécial lasagne avec 5 déclinaisons originales. Bien sûr, la lasagne traditionnelle avec la sauce à spaghetti Normandin, mais aussi la lasagne suprême avec pepperoni et bacon, la végétarienne avec fèves rouges et edamame, la smoked meat. Et essayez donc de résister à la lasagne à la saucisse Socho. Un délice! Le menu spécial lasagne, en salle à manger, en livraison et au comptoir des prêts à emporter. Normandin à vos côtés depuis 50 ans.
Grande nouvelle! Kia Lévis vient de recevoir le prix du meilleur concessionnaire Kia au Canada. Et pour célébrer les 20 ans de Kia au Québec, la Forte, la meilleure voiture compacte 2019 au Canada selon la JAC, n'est qu'à 18 245 $. Obtenez également un boni célébration additionnel de 1 $ sur nos modèles les plus populaires, en plus de nos offres en cours. Pourquoi acheter votre Kia ailleurs que chez le meilleur?
Matelas Dauphin fête son 49e anniversaire. Profitez d'économies sur tous les matelas, plus payés en 36 versements où ils payent les deux taxes pour un temps limité dans tous les matelas Dauphin.
Saviez-vous que la majorité des clients en deuxième et troisième chance au crédit n'ont pas la possibilité de choisir leur véhicule ou d'en connaître le prix réel? Chez Groupe Saillant au crédit, vous avez accès à l'inventaire de tous les véhicules neufs et d'occasion des quatre concessions du Groupe Saillant. Laurier Mazda, Sainte-Foy Toyota, Option Subaru et Sainte-Foy Hyundai. Des véhicules d'occasion inspectés, réparés, reconditionnés, certifiés et surtout au même prix, peu importe votre dossier de crédit. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saillant au crédit.com.
Ben oui!
Ben non!
Ben oui! Quand ton système d'échappement fait du bruit, il faut aller chez Silencieux Proto.
Prendre un rendez-vous? Ben non! Même pas besoin!
Ben oui! Ils ont les pièces de toutes les marques et grâce au volume, c'est moins cher qu'ailleurs.
Ben non! Pas besoin de payer maintenant grâce à Accordé Desjardins.
Ben oui! Ils nous invitent à descendre sous la voiture pour nous montrer le travail qui a été fait.
Ben non! C'est pas stressant. Ils font juste ça depuis 56 ans.
Ben finalement, José, on est complètement d'accord.
Ben oui.
Silencieux Proto sur Saint-Claude à Québec.
Et sur Kennedy à Lévis.
Moi pis ma blonde, on s'est rencontrés il y a 7 ans. Ça va super bien. On a une maison, deux beaux enfants.
Mon frère pis moi, on a plein de projets. L'année prochaine, on va ouvrir notre restaurant.
Éric pis moi, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Des chums de même, c'est
irremplaçable.
Une vie brisée en un claquement de doigts, c'est ce qui arrive chaque année à toutes ces personnes blessées ou décédées au travail. Le 28 avril, c'est jour de deuil. Parlons santé et sécurité afin de prévenir les accidents du travail. Un message de la CNESST.
Pour être à la fine pointe de l'information.
L'actualité, les dossiers chauds, à la minute près. Pour le 93, c'est Bouchard en parle avec Sylvain Bouchard.
7h08. Il y a des fois qu'il y a des débats dont on parle à la radio, puis je me demande tout le temps, est-ce que les gens jasent vraiment de ça? Notre-Dame de Paris, je peux vous confirmer que c'est pas juste dans les médias. Le débat est rendu bon sur la toile, oui, mais vraiment partout. Hein. Est-ce que, je sais pas pourquoi, évidemment, le phénomène, le symbole est fort, mais je pense que le fait qu'on ait réussi à ramasser 1 milliard rapidement pour, je l'ai dit, il y a un symbole, mais ça demeure une bâtisse. Là. Ça amène un bon débat, je trouve, moi. Moi, je suis d'accord avec la reconstruction. Évidemment, vous connaissez ma passion pour l'histoire, un peu les symboles. Mais je trouve pas que l'argument est mauvais. Même entre amis, on en a jasé en fin de semaine. On a débattu, nous autres, là, de dire, « Hey, t'as peu, là. Il y a pas des besoins plus criants que ça. 1 milliard en quelques jours. La santé, l'éducation, ça demeure du bois puis des pierres. Alors, est-ce que c'est normal de ramasser autant d'argent? Est-ce qu'on doit reconstruire? Est-ce que c'est vraiment une obligation morale où on pourrait juste dire, regarde, ça passe au feu, c'est fini, on passe à d'autres choses? Et si on reconstruit, de quelle façon? Ah, déjà, j'ai des experts qui m'ont dit, on a parlé la semaine dernière, le gros débat va être là, parce que c'est clair qu'ils vont reconstruire. Mais comme autrefois, on leur fait exactement comme c'était, ou on en profite pour adapter ça à la modernité, puis on fait quoi de plus moderne? Un peu. On va aller rejoindre l'historienne Catherine Ferland pour jaser de tout ça. Madame Ferland, bon matin.
Bon matin.
Alors, avant de commencer, je sais que vous êtes déjà prononcé un peu, j'ai vu ça sur la façon dont on pourrait reconstruire, mais juste avant, là, sur le débat, est-ce que c'est trop, 1 milliard, ça n'a pas de bon sens, tout ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine de reconstruire et de mettre autant d'argent dans ce qui demeure une bâtisse?
Ben, en fait, moi, tout ce qui est considération un peu plus éthique, là, est-ce qu'on devrait mettre cet argent-là dans la reconstruction, comme on dit, dans les pierres, dans le métal, ou si on devrait mettre ça sur des humains? Moi, je pense que le débat, il est pas tant là que dans la façon dont on veut lancer un message. Parce que, quand on regarde qu'est-ce que c'est Notre-Dame, c'est à tout le monde. Tu sais, quand on choisit d'aider un groupe en particulier, les autres groupes vont se lever puis dire, ouais, mais pourquoi vos milliards, vous allez les mettre à, mettons, l'enfance en péril et pas, au SDF en France. Tu sais, il y a toute cette question-là aussi. Alors, la question d'un choix. Alors que Notre-Dame, c'est un peu à tout le monde. Donc, de le reconstruire, c'est un peu de faire un cadeau aussi. Quand on dit à l'humanité, c'est un peu ça également.
Ouais, puis je trouve également aussi, moi, puis que je veux pas trop qu'on s'étire là-dessus, que c'est un faux débat, dans le sens où, tant qu'à ça, quelqu'un qui est malade par rapport à quelqu'un en santé, on va toujours dire, faut mettre de l'argent pour la maladie, pour la recherche, pour les gens qui souffrent, mais le monde en santé, là, tu sais, il faut continuer à vivre pareil, il faut pas s'empêcher de vivre. Évidemment qu'il faut penser aux gens malades, il faut leur donner de l'argent, il faut qu'il y ait des soins. Mais c'est pas vrai qu'on va se priver de la beauté, de tous les symboles, que ce soit l'architecture ou l'histoire, parce que tant qu'à ça, on mettra plus une scène. Parce qu'à chaque fois qu'on va dépenser un sou, on va dire, il y a un Africain qui meurt de faim. Donc, on peut... moi, je pense que ça marche pas. Et vous avez raison de dire que Notre-Dame de Paris, c'est un symbole très fort, rassembleur pour tout le monde, dans une société où on insiste beaucoup sur les divisions. Notre-Dame de Paris, ça reste fort.
Maintenant, reste un patrimoine de l'humanité, puis il y a beaucoup de gens de d'autres communautés, hein. On parle pas seulement des catholiques, mais il y a des gens de communautés musulmanes qui ont dit, écoutez, c'est peut-être à la base quelque chose de catholique, mais ça fait tellement partie aussi de l'histoire humaine que c'est à tout le monde. Donc, ça dépasse, ça transcende, ça va vraiment au-delà de la simple appartenance religieuse. Puis c'est pour ça que, quand on commence à s'interroger là-dessus, c'est sûr, on pourrait jaser longtemps, là, mais le débat est ailleurs. C'est plutôt de dire, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Réparer, oui, mais reconstruire, si on reconstruit, est-ce qu'on le fait à l'identique? Est-ce qu'on va ailleurs? C'est peut-être une belle occasion de se poser la question, justement, hein, tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on veut laisser comme message pour les autres générations?
Alors, êtes-vous dans le camp, je sais que les nostalgiques vont dire, faut que ça soit pareil, faut que ça reste comme ça, faut essayer d'imiter le plus possible, ou au contraire, vous êtes dans le camp de ceux qui disent, là, on a une occasion, on l'a pas souhaité, mais c'est ça, pourquoi pas le mettre au goût du jour? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi, je suis plutôt du second camp, effectivement, parce que vous voyez, Sylvain, je suis plutôt, je suis historienne évidemment, je m'intéresse énormément au patrimoine, mais justement à cause de ça, je crois pas beaucoup à la reconstitution à l'identique, parce que on peut facilement verser dans ce qu'on appelle le pastiche. Tu sais, on va imiter, on va construire avec des matériaux actuels quelque chose qui se veut une évocation de l'ancien. Dans d'autres contextes, ça peut être intéressant. Tu sais, on fait un complexe récréo-touristique médiéval, ben c'est sûr qu'on va faire du faux médiéval. Mais là, on a vraiment une belle occasion de se dire, OK, ça a été construit à l'époque médiévale. On était à cette époque-là, au 12e siècle. On a construit avec les matériaux de l'époque. Ça a été un chantier qui a duré des années et des années. Il y a plusieurs idées qui se sont transposées. Il y a eu toutes sortes de désastres qui se sont produits. Hein, la Révolution française et tout ça, ils ont tout pété les statues de ce qu'ils pensaient être les rois de France et tout ça. Ils ont tout cassé. Il y a eu des déprédations. Et après ça, on a décidé au 19e siècle de la remettre en état avec les idées du 19e. Et là, on se retrouve aujourd'hui, en 2019, avec un problème sérieux, une toiture très endommagée. Et le questionnement suivant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on refait à l'identique? Est-ce qu'on refait avec notre touche à nous, avec quelque chose qui reflète les valeurs actuelles? Ben moi, je suis plutôt de cette idée-là que oui, coudonc, on a une occasion. Ben pourquoi ne pas en profiter pour réfléchir à ce qu'on veut laisser, effectivement, comme idée, comme message, comme valeur de ce qu'on est, nous, avec cette problématique-là de réparation?
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous avez des idées? Évidemment, c'est le début. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner. Mais comment on pourrait redonner une touche de modernité, évidemment, sans que ça contraste trop avec le passé, avec le symbole? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous?
Ben, il y a plusieurs idées qui ont circulé. On en a vu, vous comme moi, là, ça circule énormément. Il y a des blagues au passage, évidemment, hein, on peut pas s'en empêcher. Mais moi, j'ai vu une idée intéressante. Je ne suis pas certaine que ça pourrait fonctionner, mais moi, j'ai trouvé l'idée extrêmement stimulante. C'est l'idée de faire un toit végétalisé. Là, attention, on parle pas de simplement faire un carré potager sur le toit de Notre-Dame. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça serait peut-être de recréer la forme de l'ancien toit, mais de plutôt l'orienter comme étant des surfaces où on peut accueillir des plantes. Pourquoi pas une vigne? D'avoir quelque chose qui reflète à la fois un souci très contemporain d'environnement, mais aussi peut-être un clin d'œil parce que, bon, si on y va du côté de la vigne, on le sait qu'en France, c'est non seulement pas un problème de faire pousser de la vigne, mais en plus, il y a de plus en plus d'essais dans ce sens-là d'utiliser les toitures pour faire pousser de la vigne. Mais ça sera un maudit beau symbole aussi. Hein, la symbolique de la vigne, puis le symbole religieux, la communion et tout ça, ça pourrait être intéressant. Puis au-delà de ça, ben c'est effectivement une occasion de montrer que les valeurs actuelles d'écologie, ben pourraient peut-être se transposer dans un projet comme ça. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi là-dedans, c'est de dire, ben le toit qui a brûlé, on en a parlé beaucoup, c'était des forêts, c'est pratiquement l'équivalent d'une forêt complète là, de chênes anciens, des troncs incroyables et tout ça. On l'appelait d'ailleurs la forêt, cette structure-là de bois à l'intérieur de la toiture. Ben on le sait, dans la nature, quand une forêt brûle, qu'est-ce qui prend la place? C'est des jeunes pousses, c'est la nature qui reprend ses droits. Il y aurait un fichu de beau symbole à aller chercher là en faisant un toit végétalisé.
Mais déjà, je vois, évidemment, toutes les idées sont bonnes. Là, on peut faire un genre de brainstorm, tout ça. Mais non loin de là, je suis sûr que vous vous rappelez de la controverse quand ils ont fait la fameuse pyramide au Louvre. Mm-hmm. Là, où là, le contraste entre les structures plus classiques et la modernité, ça n'a pas plu à tout le monde. Alors, est-ce que vous pensez que ça va être difficile de faire ce débat-là parce que les partisans de « on refait ça comme avant » vont crier fort, selon moi?
Ben oui, c'est certain. Puis il y a d'excellentes raisons à ça aussi. Et je suis très consciente que je m'inscris en porte-à-faux avec beaucoup de mes collègues historiens qui vont dire, ben non, voyons, faut reconstruire l'identique. Ben moi, non, je suis un petit peu comme il y a un professeur en France, Patrick Boucheron, qui est professeur des universités, qui est spécialiste en histoire médiévale et tout ça. Lui, il est d'avis que c'est intéressant quand les cicatrices paraissent, quand une époque laisse sa marque, parce que ça serait un peu un faux débat que de relancer dans l'univers une cathédrale reconstruite à l'identique, les générations futures vont la regarder puis pas comprendre qu'il y a eu un désastre en 2019. Alors que non, c'est important que ces cicatrices-là paraissent du temps actuel pour le futur également. Tu sais, c'est drôle, en tant qu'historien, on peut penser aux futurs historiens en se disant, ben ce qu'on fait maintenant, ça va être le passé un jour. Tu sais, c'est des traces qu'on laisse maintenant qui vont être étudiées plus tard. Fait que je suis un petit peu dans ce camp-là de dire, ben oui, saisissons cette occasion-là.
Catherine Ferland, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
Ça fait plaisir. Merci,
bonne journée. Catherine Ferland est historienne. Alors, elle est en faveur de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, même si ça coûte cher, même si ça coûte un milliard. Mais tant qu'à faire, elle soulève un bon débat. Est-ce qu'on refait ça exactement comme avant? Quand une maison, là, je sais que la comparaison est un peu boiteuse, mais sur le plan personnel, quand on perd de quoi? Moi, je connais personne qui rebâtit à l'identique. En général, on adapte ça au goût du jour. Mettons que, par contre, c'est une vieille maison. Pas pareil. Là. Si c'est symbolique, ça. Tu vas peut-être dire, ah, moi, j'aimerais ça la restaurer comme avant.
Ouais.
Mais est-ce qu'on peut insérer une goutte de modernité? On a parlé de vignes, de végétation, de quelque chose sur le toit, qu'on voit qu'il s'est passé de quoi, là. Il y a quand même eu un incendie et qu'on a rebâti avec certaines valeurs plus au goût du jour.
Mais ce qui est difficile, c'est quand c'est ta propre maison à toi, mettons, qui passe au feu, ben, t'es le seul qui prend la décision. Tu y vas selon tes goûts à toi.
C'est la maison de tout le monde.
C'est là, exactement.
La maison de tout le monde.
Puis il faut pas que la symbolique change non plus. Il faut qu'il y ait un certain respect de l'histoire et de la symbolique de ce bâtiment-là.
Moi, je voudrais pas qu'on perde l'essence là, de ce bâtiment-là, personnellement. Là. Oui, moderne, mais pas trop. Là. Ça reste quand même une partie de l'histoire qui est importante.
Faut qu'il y ait un bon équilibre. Je suis d'accord. Moi, je suis pas contre qu'on insère des éléments de modernité sans défigurer totalement le symbole du passé. Faut que... Mais de toute façon, il y a juste le toit, là.
Ouais.
C'est ça.
Le reste est pas mal conservé, là.
Les murs, les clochers, ils sont encore là, non?
Ouais. 25-226, voir dans nos auditeurs, êtes-vous plus des partisans, on refait ça exactement comme avant ou on met ça au goût du jour?
Il y a quelques personnes quand même qui ont fait ce commentaire-là depuis la semaine passée qui disent, nous les Québécois, de quoi on se mêle? C'est pas à nous,
on
ça débat,
mais non, mais on en parle.
Mais c'est ça, mais je trouve qu'on est quand même, écoute, quand ça fait partie de l'histoire, je pense que le monde au complet est concerné, là. Puis je vois pas pourquoi on se priverait de faire partie du débat ou d'émettre des commentaires.
Non, je suis d'accord qu'on n'a pas. Là. Non, on décidera pas, mais on peut parler.
Ben oui, c'est ça.
C'est tout, là.
Je trouve que c'est montrer respect aussi envers cette bâtisse-là, le fait qu'on soit si touché par ça.
Quand on dit qu'un édifice fait partie du patrimoine mondial, ben on est dans le monde.
C'est ça, exact.
On en fait partie.
C'est
ça.
Par contre, le débat comme tel, là, évidemment, c'est pas nous autres qui va trancher, mais je pense qu'on peut participer.
Comme on n'a pas participé au débat sur la pyramide dans le cours du Louvre dont tu as parlé.
Non, mais ça fait changer.
Du centre Georges Pompidou aussi. T'sais, Paris, il y a des touches de modernisme là-dedans là, aussi. C'est pas juste une vieille ville. Là.
Et puis en passant, les Français sont très touchés de voir que le monde entier se préoccupe Écoute, il y avait Zaz, la chanteuse Zaz, qui était à Tout le monde en parle dimanche soir. Puis évidemment, ils l'ont questionnée là-dessus. Puis il y avait une autre comédienne française qui est venue sur le plateau plus tard. Et puis les deux avaient le même commentaire. C'est incroyable l'amour mondial que les gens portent finalement à ce bâtiment-là. Puis ils sont très touchés par ça. Fait que je vois pas pourquoi on se priverait d'en parler.
Ouais. Et sur le débat, ben là-dessus aussi les positions. Je trouve que c'est un bon débat. Moi, j'aime bien ça quand il y a des bons arguments des deux bords. Mm-hmm. C'est le fun quand c'est comme dans le sport là. T'as un bon combat de boxe quand t'as deux adversaires qui savent se battre là. Tu sais. Et effectivement, c'est beaucoup un milliard pour du bois, puis de la pierre, puis le symbole, puis l'histoire. Sauf que je pense qu'il faut aller au-delà de ça et qu'on a le droit, on peut pas mettre toutes ces ressources dans une société, on peut pas mettre tout pour, mettons, les gens dans le besoin. Là.
Non.
Il faut, à un moment donné, il faut continuer à vivre, puis tout en respectant ceux qui ont moins bien réussi, qui souffrent et qui sont malades, tout ça. Mais
il y a quelqu'un qui dit, moi, je leur donnerais le toit du stade olympique. Hey, c'est pas leur faire un cadeau, ça, là.
Ouais, on essaie de les aider. Là.
C'est ça, il faut être positif.
Mais non, les Français ont leurs défauts, mais on les aime quand même.
On les haït pas ce point-là.
J'essaie de trouver une phrase la plus respectueuse possible là, pour expliquer un peu mon point de vue sur le débat du 1 milliard. Tout ça, c'est surtout ça qui a fait jaser. Là, quelqu'un qui a faim à côté de toi, c'est pas nécessairement en arrêtant de manger que tu vas l'aider.
C'est vrai.
Quand tu es en avion, tu sais, la fameuse, souvent, là, ça, c'est en avion, mettons que les masques tombent, puis un enfant à côté de toi. Alors, la question, c'est est-ce que tu dois mettre en premier le masque à l'enfant? La majorité des gens vont dire, ben oui, c'est faux. Vous savez qu'il faut que d'abord que tu mettes le masque à toi pour être capable de le mettre à l'enfant après. C'est tous des exemples boiteux, j'en suis conscient, mais je pense pas que la société doit se rendre malade, puis se priver de la beauté, de l'histoire,
Il faut pas égaliser par le bas, dans le fond.
Non, mais oui, il faut les aider. Mais les gens plus démunis, on va les aider bien plus en leur montrant pêcher qu'en leur donnant des poissons. Exact. Vous connaissez le vieil adage. Donc, je vois pas de scandale, moi, comme tel, en mettant 1 milliard pour ça. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Je comprends. Oui.
Mais tu sais, l'exemple de la nourriture est bon parce que tu sais, des fois, tu vas aller au restaurant puis tu n'auras plus faim, tu finiras pas ton assiette, puis la personne à côté de toi va dire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens de gaspiller de même, il y a des enfants qui meurent en Afrique. Mais le reste de ton assiette, là, elle ne sera pas envoyée directement à un enfant en Afrique. C'est pas parce que tu finis pas ton assiette qu'on va en donner plus aux gens en Afrique. Mmh. Fait que l'exemple est bon aussi pour ça, là.
Et je pense que parce qu'on en jasait en fin de semaine, les familles qui ont donné, là, pour 1 milliard, à mon avis, ils donnent à d'autres choses.
Ben oui, c'est
pas juste à mon avis, là. Ils donnent ailleurs aussi, là. Oui. Sinon, on va mettre fin à tous les spectacles, on va mettre fin aux musées, à toutes les œuvres d'art, à tout l'argent qu'on met dans notre divertissement, parce qu'il y a des gens qui souffrent au moment où on se parle.
On va pas de vie, là.
7h22.
Le retour d'Éric Duhaime avec Éric Duhaime et Marc Boilard. Lundi au vendredi, 14h, au FM 93.
On sert le numéro 58.
Vous n'êtes pas un numéro Géum d'Achalebourg. Grande satisfaction à petit prix avec la Civic en location à 0,99% jusqu'à 48 mois. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie 1ère avenue.
Je vous parle de simonlaberge.com. Vous voulez vendre votre propriété, condo, maison, puis vous avez entendu des histoires. Connaissez-vous l'histoire à Québec de la personne que ça a pris 2 ans à vendre sa propriété? Connaissez-vous l'histoire de la personne qui a vendu vite parce qu'elle était pressée, puis que, bon, a baissé le prix, puis a perdu beaucoup d'argent, aurait pu avoir bien plus que ça? Ou encore le prix bien trop élevé, ça fait 3 fois qu'il change de prix, dans ce temps-là, c'est pas bon, ça fait 3 fois qu'il baisse. Là. Ces histoires-là, vous les connaissez, hein? Ben moi, je peux vous en compter d'autres. L'histoire de la personne qui a fait affaire avec simonlaberge.com via Capital numéro 1 au Québec, la plus grosse équipe sur le web partout, que la maison s'est rendue la propriété s'est vendue dans un délai vraiment rapide, au bon prix, puis a été gagnant avec la tranquillité d'esprit, on s'est occupé de tout. Ça aussi, il faut en parler. Moi, je nie pas que des fois, le contexte, c'est pas facile. Sauf, raison de plus pour faire affaire avec le meilleur. simonlaberge.com.
Lessard Hyundai vous invite à son événement Accès Privilège. Pour 3 jours seulement, du 23 au 25 avril, profitez d'offres exceptionnelles et jusqu'à 4 500 $ en rabais Toto. Inscrivez-vous maintenant par téléphone. Conduisez le superbe Tucson 2019 2 litres Essential, très bien équipé, pour aussi peu que 65 $ par semaine en location 48 mois, léger comptant. Ne manquez surtout pas ça. On vous attend chez Lessard Hyundai au 300 boulevard Louis XIV.
OK, c'est ici qu'on va creuser.
T'es certain qu'il y a rien en dessous?
Fie-toi sur moi, je connais le coin.
Ce serait pas mieux de vérifier avec Info Excavation.
Ah, il faut terminer aujourd'hui. Creuse!
Ne faites pas l'autruche. Endommager un service souterrain et c'est tout le quartier qui perd des plumes. Exigez une excavation responsable de votre entrepreneur.
Info Excavation, c'est gratuit. Sans passer, ce serait dommage. Info-EX.com.
En 2018, J.D. Power classait une fois de plus Lexus en tête de son palmarès des véhicules les plus fiables, toutes marques confondues. Une telle reconnaissance est un gage d'une valeur de revente optimale pour tous les propriétaires et ça s'ajoute à toutes les bonnes raisons que vous avez pour venir essayer un Lexus. D'autant qu'en avril, tous les modèles F-Sport en stock profitent d'une remise allant jusqu'à 6 000 $. En avril, vivez l'exceptionnel. Vivez l'expérience Boulevard Lexus, angle de la capitale et Pierre-Bertrand Sud.
Retour des super promos printemps au Club Avantage Multisport. Spécial 3 mois, tous les services, gym, workout, spinning, tennis, badminton, seulement 119 $. La garderie gratuite en plus. Nouveaux membres, 15 mois pour le prix de 12. Wow! Clubavantage.ca.
À Québec, tout le monde cherche le nouveau Telluride 2020. Il y en a 10 chez Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair. Les gros, gros VUS comme les Explorer, Durango et Acadia ont désormais une concurrence asiatique. Et c'est le temps de passer voir la bête. Il y en a 10 chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
Salut, c'est Don Pou. Le FM 93 vous invite à une grande première à Québec. Le tout premier Forum du sport. Une soirée captivante avec des conférenciers de renom.
Salut, c'est Ray Lalonde, expert sport et business et chroniqueur au FM 93. Je serai accompagné de Frank Ponce, directeur de l'Observatoire international en management du sport, et Glenn Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or Football. Je vous donne rendez-vous le 7 mai à 19h à l'Université Laval.
Réservez vos places sur eventbrite.ca. Une invitation de Force Collective, Banque nationale gestion privée 1859 et Derico Expert Conseil.
On sert le numéro 58.
Vous n'êtes pas un numéro Géum d'Achalebourg. Grande satisfaction à petit prix avec le CRV en location à 0,99% jusqu'à 24 mois. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie 1ère avenue.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Bon matin, Pierre-Yves.
Salut.
D'abord, la ville de New York qui fait rêver Hydro-Québec, la ville qui rêve d'être carboneutre, je pense en 2050, rapidement, donc qui pourrait passer à l'hydroélectricité. C'est bon pour nous, ça?
Oui, François Legault, ce matin, fredonne. I want to be a part of it, New York, New York. Et tu sais, Sylvain, notre force, là, nous, là, c'est pas l'aluminium, c'est l'hydroélectricité qu'il y a derrière. Notre force, c'est pas le minage de crypto-monnaies, c'est l'hydroélectricité qu'on a derrière, ça. C'est pas le cannabis en serre, c'est encore une fois Hydro-Québec.
Ouais,
et
ouais.
C'est sûrement pas la voiture électrique, c'est l'hydroélectricité. Nous, on a cette chance-là, on s'en rend pas compte, mais on est comme tributaire des décisions politiques passées qui sont extrêmement payantes pour nous au niveau environnemental, mais aussi financier. Et quand la ville de New York dit on veut plus d'hydroélectricité canadienne, mais là, évidemment, François Legault lève la main et il dit nous autres, on en a en masse, tu comprends? Et on produit, en 2018, 209 tétrawattheures. Là-dessus, t'en as 36 à l'exportation. Donc, t'as à peu près là un pourcentage assez important en exportation. Et ton 5 tétrawattheures que tu vas aller chercher supplémentaire, ce serait 2,3% des ventes de l'année dernière ou 14% des exportations. Bon, on jase, je te mets plein de chiffres, je te garoche ça. Mais quand on regarde les états financiers, il y a une chose qu'on marque chez l'Hydro-Québec. La rentabilité au niveau des tétrawattheures produits, c'est aux exportations que ça va. On fait 18% du niveau production là qui est lié à l'exportation, puis on en fait 37% des bénéfices. Donc, c'est très payant et c'est pour ça que ça excite nos gouvernements. Et dans nos exportations l'année passée, il y a, dans le fond, 24% du volume qui allait vers New York, vers l'État de New York. Donc, tu vois que c'est quand même un client important, puis 47% pour la Nouvelle-Angleterre. Et là, j'ai trois bonnes raisons d'aimer cette nouvelle-là. La première, c'est qu'on a des fois des surplus. Hein? On aime ça s'en débarrasser à fort prix. Si on signe un contrat à long terme, c'est intéressant. Même chose pour les tarifs. Deuxième raison, quand tu exportes, tu peux fixer tout de suite ta marge de profit. C'est-à-dire ton coût de production, tu le connais, et ton coût de vente, tu le connais sur le moyen ou le long terme. Donc, tu peux fixer ta marge. Et finalement, le troisième élément que j'aime beaucoup ce matin, Sylvain, c'est que ça ravive notre fierté. Ah, ça, c'est beau, hein. Je t'attendais pas à ça, hein.
C'est ouais, parce que, mais t'as raison. Hydro, dans les dernières années, puis c'est un peu de leur faute. Tu vas être d'accord avec moi, là. Ils en ont perdu un peu.
Ben, avec Jean Charest, on a liquidé beaucoup d'actifs dans le monde pour aller chercher de l'argent d'un coup pour, tu sais, combler plein d'affaires. Et on a éliminé un peu notre espèce d'expansion mondiale. Mais, te souviens-tu, en 2009-2010, un moment donné, je suis bien épénard chez nous, en train de travailler, et whoop! Nouvelle qui pop. Jean Charest, et Hydro-Québec, pour 4,75 milliards, met la main sur Énergie Nouveau-Brunswick. Hey, ce matin-là, là, tous les Québécois avaient pris 6 pouces, tu comprends? On s'endettait de 5 milliards, mais on allait générer une capacité de production plus grande, mais surtout devenir des maîtres de l'énergie de l'Est du Canada. Mais évidemment, Terre-Neuve voyant ça, s'il m'a chialé un peu, faites peur aux gens du Nouveau-Brunswick. Vous n'allez pas laisser les méchants séparatistes mettre la main sur l'énergie du Canada. Et ça a évidemment foiré. Ouais. Ça n'a jamais fonctionné. Mais ce matin-là, on était-tu fiers? Il faut dire que Terre-Neuve avec l'hydroélectricité ne sont pas bien bons. Ils font Churchill's Falls avec nous autres, mais on a un gros contrat d'une couple de décennies qui ont à travers de la gorge. T'sais. On fait de l'argent avec eux. Et de l'autre bord, ils ont fait un autre barrage pour être plus indépendants. Ils sont en train de se mettre dans le trou avec ça. Tandis que nous, tu vois, on n'est, semble-t-il, pas pire en calcul.
Mais qu'est-ce qui a nuit à l'image un peu, à la réputation de Hydro-Québec? C'est ça qui est un peu contradictoire. Évidemment, on pourrait évoquer les histoires de trop perçus, mais c'est assez récent dans l'histoire, les bonnies que les dirigeants se payent. C'est toutes des choses qu'on n'aime pas. Moi, je pense que ce qui a pas aidé à l'image de Hydro, c'est les verts. C'est ça qui est contradictoire, parce que c'est de l'énergie verte, tu viens d'en parler, les New-Yorkais veulent ça, ils rêvent à ça, tant mieux si on leur en vend, parce que contrairement au charbon ou au nucléaire, on est bien mieux. Mais au Québec, à un moment donné, même si on a une énergie plus verte que partout ailleurs en Amérique du Nord, il reste que, tu sais, on fait pas d'omelette sans casser deux, je reconnais qu'un barrage au niveau des rivières, au niveau des arbres, il y a quand même une empreinte écologique, mais les verts, comme se sont mis un peu à protester contre ça. Et curieusement, c'est eux qui ont nui à l'image d'Hydro le plus.
En fait, même les Américains, dans les États américains, disaient « Oh, l'hydroélectricité, on peut pas vraiment considérer ça comme vert. » Ben là, c'est ça, il y a vert, il y a vert pâle, il y a vert foncé, puis
ben,
il y a brun.
C'est ça, là. Ben, c'est
mais tu sais, un des beaux projets d'Hydro-Québec qui a jamais vu le jour, Puis je suis sûr qu'aujourd'hui, tu sais, faut se mettre les choses dans la balance, là. C'est la Jacques-Cartier. Tu sais, la Jacques-Cartier, c'est une magnifique vallée, mais imagines-tu mettre un barrage dans le milieu, comment ce serait payant de remplir ça d'eau? Puis... Mais en même temps, je te dis ça à tes auditeurs, pas à toi, là, harnacher la Jacques-Cartier, là, hop, là, c'est moins fun, là.
Ben non.
C'est proche de Québec, c'est un beau site naturel, c'est du canoë camping, c'est de la nature à proximité. T'imagines-tu voir un gros barrage, tu sais, Malik 5 là-dedans?
Ben non, mais il n'y a pas 1% des rivières qui sont harnachées au Québec, là.
Non, il y en a encore. Tu sais, moi, j'ai vu la rivière Rupert, là. C'est magnifique, là. C'est incroyable comme dénivelé puis comme haut, mais il y avait un projet. Donc, tu sais, c'est facile comme Québécois qui vivons dans le Sud de dire, ben, c'est juste le Grand Nord. Hey, lâchez-moi avec vos réserves, lâchez-moi avec vos terres ancestrales, lâchez-moi. Faites, on a besoin d'hydroélectricité. Ouais. Mais si c'était ton voisin, c'est tout le temps ça, le défi.
Non, il faut le faire intelligemment. Il y a des communautés locales là-bas qu'il faut respecter. En même temps, il y a certaines rivières qu'il y a à peu près exclusivement des millionnaires, voire milliardaires américains qui allaient pêcher là de temps en temps. Là. Quand ils me parlent de patrimoine, attendez un peu. Là. Il y a personne qui est allé, à peu près personne qui en profite, sauf de riches Québécois ou Américains. Alors, s'il y a un petit changement dans l'environnement, en le faisant de façon intelligente, modérée, puis qu'on en fait bénéficier des plein de monde au niveau de la planète parce qu'on renonce au charbon, au nucléaire ou à d'autres formes d'énergie polluante, ben moi, j'y vois un gain, là.
Écoute, c'est sûr qu'il y a une perte. Tu es déjà allé à LG2 une fois dans ta vie?
Non.
Moi, je suis allé, ma sœur était guide, OK? Donc, okay. Je suis monté à LG2, 1390 km. Et quand tu arrives à Matagami, t'as une route, tu sais, qui est privée pour 600 km, là. OK? Et tu donnes ton nom à l'entrée de la route tellement que c'est loin. Puis t'as une place pour mettre de l'essence dans le milieu. Puis si tu manques ton coup, ben t'es fait, OK? C'est pas les ours noirs ou les ours bruns qui vont venir te nourrir, on s'entend? Donc, ça, c'est impressionnant de voir dans le Grand Nord, comme Québécois, si vous avez la chance de voir ça une fois dans votre vie, tu te tiens sur le bord de LG2 puis tu te dis, hé là là, ça là, c'est nous autres.
J'ai déjà proposé ça, là. Tu me dis que ta sœur était guide, je sais qu'il y en a un peu là-bas. Mais moi, je comprends pas, pour redorer le blason d'Hydro, essayer de contrecarrer un peu certains, là, la propagande un peu négative de certains verts, là, c'est pas tout le monde. Il y en a qui défendent l'hydroélectricité en masse, mais il y a des radicaux qui voudraient qu'on touche plus à rien puis qu'on fasse rien, puis bon. Hydro-Québec devrait subventionner des voyages dans le Nord pour aller voir Manic, pour aller voir la baie James. Il serait gagnant au lieu de faire constamment des pubs à TV. Bon, c'est tel que tel. J'avais déjà fait un sondage, moi, les auditeurs. On n'a pas vu ça. Honnêtement, c'est au niveau de l'architecture, au niveau de l'ingénierie, c'est gigantesque, là.
Hey, c'est loin
longtemps.
On n'a
jamais
par exemple,
vu ça. Hein? Ah, mais tu y vas en avion?
Ah, non, tu y vas en auto, là. Radisson, là. Si tu y vas en auto, là, c'est 1390 km, puis tu as dit, là.
Justement,
c'est une belle route.
Il devrait y avoir une subvention, des programmes, puis de temps en temps, une couple de citoyens intéressés. On force personne. Allez voir ça.
Sylvain.
Oui.
Bouchard.
Oui.
À Bouchard en parle.
C'est moi.
Au FM 93, qui dit, il devrait y avoir des subventions.
Oui, aux citoyens. Pas à des compagnies. Pas des, on finance pas des compagnies qui sont déjà millionnaires ou milliardaires. Ça m'écœure. Si tu finances des citoyens et on en paye assez de taxes puis d'impôts, à un moment donné, il y a des gens, puis oui, l'État Hydro-Québec peut contribuer. Ils vont être gagnants. C'est une forme de pub. C'est du marketing.
Puis là, c'est une belle visite. Tu sais, des visites juste 3D, là. Virtuel. Juste produire un vidéo virtuel que tu peux aller voir dans les écoles. Écoute, ce serait formidable.
C'est bon, merci Pierre-Yves. On se reparle demain.
Salut.
7h35.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Doc Mayou et José. Tout de suite après Bouchard en parle au FM 93.
Tu cherches un modèle mortellement équipé pour un prix incomparable? On l'a! C'est l'Elantra 2019 en location pour 54 $ par semaine. Ah! Tu préfères te diriger vers un VUS flambant neuf que tu vas louer sur 48 mois et pas toute une vie? On l'a! C'est le Tucson à 65 $ par semaine. Tu aimerais avoir un Kona électrique 2019 avec une belle carte cadeau d'essence et des changements d'huile gratuits à vie? Ben, avec un Kona électrique, ça, on l'a pas besoin! C'est une fois Hyundai, pense-y, si t'aimes ça... On l'a!
Barbies Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill.
Chez Barbies, nos burgers connaissent un flamboyant succès bœuf. Savourez-en un avec des frites et une salade de choux chez Barbies au 330 rue Bouvier, Le Bourgneuf.
Il suffit de se donner rendez-vous chez Barbies.
Barbies Resto Bar
Grill. Avec ceux qu'on aime au barbiesgrill.com.
Et on a notre gagnant de la super promo Enviro Confort. Tout le monde est gagnant. Il y en a plein qui ont reçu 200 $ là. Tous ceux qui ont texté Confort à 25226, c'est fini en passant, là. On a reçu 200 $ Profitez-en. Vous allez avoir, je vous le dis, là, la meilleure qualité de produit, le meilleur service au niveau de l'installation. C'est en plein le temps, là. Il commence à faire chaud, là. Il va commencer. L'été s'en vient. Enviro Confort et Germain Godbout remportent la thermopompe de 4000 $ Bravo, M. Godbout. Le concours est fini, mais Enviro Confort est là. Pour vous, c'est le printemps, il commence à faire chaud. Faites-leur confiance, allez sur Google, tapez Enviro Confort.
Pour communiquer avec notre studio, étoile 93.3.